Gameblogger, Gameblogueuse, welcome back on the podcast of Gameblog. Avec des dispositifs exceptionnels, nous sommes dans la semaine de l'E3, bienvenue, welcome. Et bien évidemment, avec Raon, nous avons pris l'avion spécialement pour ne pas rater ce podcast. On repart directement
Concorde.
Après. Exactement, on l'a réhabilité. Histoire de vous faire ce bilan du mois de mai, alors que nous sommes, vous le savez, en pleine semaine de l'E3. Mimic qui est en train de consulter sa tablette numérique, bonjour, bienvenue, welcome.
Mes hommages, bonjour.
Julo,
bien le bonjour.
Raon, bien évidemment. Hey. Plumeau. Ça va bien, ça se passe bien pour l'instant cette E3. Vous êtes content?
On est sur les rotules.
Parce que nous, on a été impressionnés par ce qu'on a vu déjà.
Oui, mais c'est pas le sujet de ce podcast.
Ah, c'est vrai, complètement vrai. Alors ça y est, on se reconnecte avec l'actualité, puisque c'est le bilan du mois, podcast 227, vous le savez. Les coups de cœur et les coups de gueule de la rédaction, les thèmes qui ont fait l'actualité du mois, les jeux annoncés, et puis nos jeux coups de cœur du mois. Et bien tout cela, c'est dans cette heure de podcast. Un podcast pendant lequel peut-être que vous entendrez certains vrombissements, tout simplement car il fait actuellement à peu près 47 degrés dans la salle où nous enregistrons et que si nous ne souhaitons pas décéder, eh bien nous sommes obligés de mettre des ventilateurs. Vous nous en excuserez, on en est désolé. Voilà, alors on va commencer actualité Gameblog. Bien évidemment, vous le savez, as usual, le podcast, vous pouvez le suivre aussi en vidéo si vous êtes Gameblog Premium.
Pour nous voir transpirer.
Exactement, là ça vaut son pesant de cacahuètes avec nos cheveux qui bougent dans le vent comme dans autant on emporte le vent, enfin c'est complètement dingue.
Je voudrais pas balancer, mais Plume a teasé un éventuel strip.
C'est vrai.
Ouais. On peut se voir nu avant la fin de ce podcast.
Ah mais il y a pas que moi, hein. Tout le monde. Hein. Je pensais. À...
Il fait vraiment très très chaud.
À faire un full Monty en fait, une petite choré et puis.
C'est ça.
Exactement. Alors, dans les actualités Gameblog, sinon, vous avez vu au mois de mai, nous vous avons fait vivre au cœur de l'événement de la venue de Kojima et Shinkawa à Paris, 48 heures avec les créateurs de la saga Metal Gear qui fête en ce moment eh bien, les 25 ans. Vous avez moult vidéos là-dessus, vous les avez beaucoup appréciées et nous a fait bien plaisir de les réaliser pour vous avec... Et à l'arrivée, il y a quelques temps, une interview un petit peu décalée. Voilà, sinon, nouveau backstage aussi avec Cyril Derevet de retour pour un backstage. Et puis, un petit coucou à nos amis No Life qui ont fêté au mois de mai. Eh bien, leurs 5 ans, c'était le 19 mai dernier. Et ce sera sur No Life, bien évidemment, pour la vraie date, le 1er juin en diffusion avec certains Hawks qui a marché, qui a pas marché, Bad Buzz, Boom Buzz. À vous de vous faire votre opinion. En tout cas, nous, on leur souhaite plein de bonheur pour les années à venir. Les 5 ans de Gameblog, c'était il n'y a pas très longtemps. Et les 5 ans de No Life, finalement, bah voilà, c'est la continuité. C'est la famille de cœur. Voilà. Allez, on va passer aux articles les plus lus par vous, les lecteurs, auditeurs de Gameblog. Alors, en 5e position, nous avons les jeux vidéo préférés de notre président, François Hollande. Ouais, alors, bah, je trouvais ça plutôt sympathique.
Alors, de mémoire, c'est pas FIFA.
Alors c'est FIFA
et Call of Duty hein, je crois.
Et alors il cite pas Call of Duty je crois, mais il parle de jeux de guerre, etc. Mais que la guerre c'est mieux de la faire en virtuel qu'en réel. Bon c'est tout, voilà. Mais enfin au moins
un peu de démagogie bien évidemment. Jamais de mal.
Mais enfin, bah, tu sens que quand il dit les jeux de guerre, il se rend compte dans sa tête, il se dit merde, attends, ça, c'est pas très populaire, ça va pas, c'est pas bon ça.
Son fils aussi qui déclarait que justement ils avaient reçu une console à Noël et qu'ils avaient joué toute la nuit. On comprend bien a priori qui a ramené un peu le jeu vidéo dans la famille. Hein, parce que du côté de maman, ex-maman, enfin toujours maman
on
mais
aimait
ex-femme,
pas trop ça.
Quand on se rappelle ce qu'elle disait au Club Dorothée sur les mangas et le jeu vidéo.
C'était surtout les mangas, ouais.
Ça devait faire un peu de dissension dans la famille. En tout cas, voilà, notre président connaît un petit peu le jeu vidéo. C'est probablement pas un grand gamer, mais...
Il a cité Super Mario Bros. Aussi.
Super Mario Bros, voilà.
Tu veux dire Super Mario Bros.
Bros, pardon.
C'est ça.
Excuse-moi, Grégory.
En tout cas, c'était sympathique. 4e position, Diablo 3 massacré par les joueurs. Peut-être vous aussi. On en reparlera tout à l'heure, bien évidemment, puisque Diablo 3 est au cœur de l'actualité de ce mois-ci. Un démarrage compliqué, mais un grand jeu quand même. On en reparlera avec Mimi, Raon, Plume, qui tous les trois rincent le jeu à ne plus savoir qu'en faire.
Merci, tu m'as pas cité. Je n'aurais rien à dire sur Diablo, c'est cool.
Mais parce que je pense que tu n'y as pas joué.
Non,
me trompe.
Il jouera dans 2 ans, à peu près,
voilà.
Comme le jeu.
Peut-être.
Non.
Allez, en 3e position, number 3. Un truc incroyable. Il s'agit de Leap Motion. Leap Motion, cette nouvelle technologie 100 fois plus précise que ce qui se fait aujourd'hui avec Kinect et autres.
102 fois exactement, je crois.
C'est possible. Eh bien, c'est pareil. On en parlera tout à l'heure parce que c'est mon coup de cœur de cette technologie. Mais vous avez été très curieux autour de ce projet.
Il y a de quoi.
Il y a vraiment de quoi. De quoi. Tout petit prix, $70. Ça sort à la fin de l'année. On en reparle dans quelques instants. Et puis, deuxième et première position des tests, avec le test en deuxième de Max Payne 3. On en reparlera aussi tout à l'heure. Je crois que c'est dans les jeux coup de cœur de certaines personnes de la rédaction. Oui, deux plus précisément. On en reparle en fin de podcast. Et puis, en numéro 1, le plébiscite Diablo 3. Le test sur Gameblog. Idem, on en reparle dans quelques instants. Mais tout de suite, les coups de cœur et les coups de gueule. C'est parti. Alors, les coups de cœur, coups de gueule. Messieurs, je me tourne vers Mimic. Alors, Mimic, vous connaissez peut-être, si vous êtes fidèle des podcasts.
Ardent détracteur des DLC.
Ah ouais, pourfendeur des DLC. Et là, ton coup de cœur, c'est un DLC. Qu'est-ce que se passe-t-il?
Tu changes de chemise. Quand je gueule sur les DLC de manière générale, c'est parce que les mecs abusent. D'abord, les DLC, ils sont déjà préparés avant que le jeu sorte. Ensuite, c'est des enchaînements de DLC continus qui sont fractionnés dans tous les sens. Là, on a Sega qui nous propose un DLC sur Virtua Fighter 5, qui est donc un jeu sorti en 2007, dans mon souvenir, je crois.
Mm-hmm. Pour le coup, ils l'avaient pas préparé avant, celui-là.
Ah bah là, pour le coup, on en est sûr. Donc déjà, on peut virer ça. Ensuite, ils remettent vraiment leur jeu à jour, puisque c'est la version arcade la dernière. Enfin. La dernière version arcade la plus à jour, c'est qu'est-ce que je dis?
La plus récente,
la version arcade la plus récente donc du jeu au Japon, qu'on va donc avoir enfin sur nos consoles, avec deux persos supplémentaires, un roster remis à jour, des arènes dynamiques, des nouveaux objets. Bref, il y a des choses vraiment intéressantes pour les gens qui aiment ce.
Des objets, il y a du loot comme dans Diablo.
Alors il y a des objets, ouais, mais des objets par contre là, il va falloir que tu achètes à part. Donc là pour D'accord, le coup, okay. Il y a effectivement un souci, mais c'est d'autres DLC.
Moi, je c'est le cheval de Troie du bon DLC qui devient un mauvais DLC.
Ça commence à devenir très compliqué. Ouais. C'est-à-dire que t'as un premier DLC qui a pas, et puis
russe.
Voilà, mais en fait. Un DLC que tu peux complètement zapper les objets, tu peux, enfin ça dépend pour chacun ses goûts, mais bon, tu peux zapper. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même deux persos supplémentaires, il y a vraiment des modifications dans le roster, et puis il y a des arènes dynamiques, et c'est quand même sans doute, à mon sens, l'un des tout meilleurs, si pas le tout meilleur jeu de combat en 3D. Et ils sortent un DLC 5 ans après, pour un jeu qui reste encore exceptionnel aujourd'hui. Moi je dis bravo, et je suis super content.
1200 Microsoft Points, tout à fait, 12,99, le 6 juin, 12,99, c'est cette semaine.
Il y a une démo qui va arriver aussi, exclusif à l'Xbox 360, je crois, et ce sera le 5 juin, me semble-t-il. D'accord.
Mais c'est vrai qu'il fut un temps où ils auraient sorti cette version comme un nouveau jeu. Oui. Voilà, donc c'est le bon côté des DLC, en fait. C'est que
on joue pas trop de jeux. Ça fait quand même pas vraiment de nouveaux
jeux. Non, je suis d'accord, mais il y a un vrai rééquilibrage, vraiment. Et donc, on peut pas dire que c'est pas le même jeu, mais il y a des très grosses différences. Et pour un jeu qui a 5 ans, c'est vraiment une remise au goût du jour, et c'est au bout de 5 ans.
C'est un Super Street Fighter 4, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que si tu prends Capcom à côté, eux, ils
le font. Ok, d'accord, sauf qu'au bout de 8 mois, ils le font, quoi. Voilà. Donc là, c'est quand même.
Notez cette date, en tout cas, voilà, Mimi.
Pour ceux qui aiment la baston 3D.
A apprécié un DLC, ça restera dans les annales, dans les petits
grimoires
de Gameblog.
Mais cherche pas à essayer de me piéger, parce que je suis arrivé ce matin, tu m'as dit alors toi je vais te défoncer au podcast. Okay.
Non, je suis qu'amour, tu le sais bien. Julo, oui. Tu veux nous parler d'un club en grande difficulté en ce moment dans le football français?
Non, c'est un coup de cœur à la con, mais effectivement, il y a eu une petite vidéo, je sais pas si vous l'avez vue sur Gameblog, qui montrait en fait les séances photos des joueurs du PSG pour FIFA 13. Ce qui signifie donc que dans FIFA 13, les joueurs du PSG auront leur vraie gueule dans le jeu, ce qui a, je crois, jamais été le cas.
Complètement génial.
Donc c'est génial. Donc je suis très ravi.
Moi, incroyable. J'en ai les frissons.
Incroyable.
Je sais pas si c'est de la honte ou de la joie, mais.
non, mais je suis content. Je vais pouvoir jouer avec mon club et puis reconnaître les personnages sur le terrain. Ça, c'est cool. Mais j'ai un double coup de cœur parce que j'ai pas de coup de gueule.
Double effet qui se coule. Qu'est-ce que passe-t-il?
Je me rappelle plus.
Alors moi, je peux te le rappeler. Il s'agit, comme le parc des princes, autre prince.
Tout à fait. La vidéo de Prince of Persia Assassins, qui date de 2004 et qu'il faut avoir absolument quand on est fan d'Assassin's Creed, parce que c'est les prémices d'Assassin's Creed, et on y découvre donc dans l'univers de Prince of Persia ces personnages qui ressemblent beaucoup donc à Ezio ou à Altair dans leur capuchon, qui effectuent quelques assassinats avant de s'enfuir, etc., avec quelques scènes à cheval, des scènes en vue subjective. Donc on peut voir un peu ce à quoi ils ont pensé au départ pour Assassin's Creed, et notamment le premier assassinat qu'il y a dans la vidéo où on passe en vue subjective donc, et où on lui plante la lame secrète qui était déjà prévue en 2004. C'est assez cool à regarder, et je trouve que c'est dommage. Je pense qu'il y a des vidéos, des choses comme ça, des travaux que les boîtes de jeux vidéo ne sortent pas dans les éditions collector, etc. Ça finit par leaker sur internet, mais c'est du matériel génial, quoi. Enfin, pour les fans,
Il faudrait qu'ils systématisent beaucoup plus tout ce qui est making-of, etc. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que
mais
ça.
Mais pas faire des vrais making-of, parce qu'en ce moment, c'est toujours des interviews de développeurs au moment de la sortie du jeu qui te vendent le jeu, etc. Mais c'est ce matériel-là, ça se dit pas matériel en français.
Non, pas trop.
Enfin, ces vidéos-là, ces images-là, etc., qui nous montrent vraiment les développements du jeu, les prémices du développement. Je trouve ça génial. Et j'ai surkiffé cette vidéo. Allez la voir.
Très bien. Alors, Raon, c'est un coup de cœur en double détente, puisqu'il s'agit de la vague des reports de Tomb Raider, de Bioshock Infinite.
Oui.
et compagnie.
Et qui est alors, en fait le coup de gueule de Plume, mais qui pour moi est un coup de cœur, puisque je suis en fait relativement content déjà d'une part qu'ils prennent le temps qu'il leur faut et qu'ils aient le luxe aujourd'hui d'avoir ce temps pour bien peaufiner leur projet, etc. Et puis surtout parce que ça faisait quand même encore du monde au portillon pour la fin de l'année, et donc ça me laissera le temps de profiter d'autres jeux qui sortent d'ici là.
Ça doit être plus facile de le faire passer. Ça doit être plus facile de le faire passer aux éditeurs aujourd'hui quand tu vois les bouchons effectivement qu'il y a en fin d'année. C'est peut être d'un seul coup moins grave et peut-être même une opportunité de le repousser au début de l'année suivante.
Ouais, mais enfin ça reste quand même alors surtout pour BioShock Infinite qui a eu un vrai report de je sais plus combien de mois puisqu'il sort en février si je dis pas de bêtises maintenant au lieu de l'octobre prévu à la base. Ça fait quand même un sacré report qui va coûter cher aussi quelque part à l'éditeur.
Mais ça sortira dans l'année fiscale donc
Oui, si ça marche bien, voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que Lévin a dit que c'était absolument pas parce qu'il y avait un embouteillage et qu'il n'était pas du tout inquiet, que BioShock,
pour Tomb Raider, je sais pas, mais pour BioShock Infinite, je pense que c'est bien qu'il sorte pas à la fin de l'année.
Mais non,
il aurait eu trop de concurrence.
Alors justement, toi, c'est ton coup de gueule, on va l'anticiper Plume.
Mais moi, je suis pas d'accord, moi j'ai envie d'y jouer tout de suite.
Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Moi aussi, j'ai envie d'y jouer tout de suite.
Mais non, mais tout de suite.
Mais est-ce que tu préfères y jouer pas fini comme il faut?
Je suis sûr qu'ils sont finis.
Parapa
fini
comme il faut.
Le jeu il est fini depuis 8 mois, je suis sûr, ils attendent juste le bon moment, c'est comme d'hab.
Toi c'est vraiment la théorie du complot, hein. Ouais,
exactement,
exactement.
Je pense qu'il y a un gros complot qui fait qu'ils se disent on va troller, regardez Lara Croft on va le sortir en 2013, bande d'ordures. Mais non mais ouais, moi je suis vraiment dégoûté d'attendre encore aussi longtemps.
Mais surtout, l'attente c'est bien.
Surtout pour Tomb Raider, BioShock évidemment j'ai super envie d'y jouer, mais Tomb Raider je m'étais dit putain cette année ça va être bien.
T'inquiète, on y jouera pour toi, on est même d'ailleurs peut-être en train d'y jouer pour toi.
Ah bah oui. C'est vrai, oui.
On se retéléporte à la fin de ce podcast.
Mais vous n'avez pas le droit d'en parler, c'est ça qui est embêtant. Quoi. Donc,
Et non.
Bah, ouais.
Enfin, c'est surtout qu'on ne peut pas. Enfin, non, mais parce que nous sommes en duplex, là, c'est un hologramme, bien évidemment. Nous sommes à Los Angeles actuellement.
Il reste un truc aussi pour Infinite, ça se trouve, ça sera pour ajouter des trucs énormes. Peut-être un multi. Peut-être qu'ils ont trouvé enfin une bonne idée pour faire un multi valable. Parce que, bon, à la base, on s'en fout un peu du multi pour BioShock, mais.
Ouais.
Bref, donc voilà, on verra.
Plume, ton coup de cœur du coup.
Oui.
C'est l'annonce de Cave. Alors,
je fais mon deuxième après.
T'en avais deux.
Bah oui.
Non, il y avait marqué où.
Ah oui, mais t'as choisi pour moi.
Ah ouais. Bon, alors vite fait.
C'est l'annonce de Halo 4 Forward Unto Dawn, qui est un film, donc Halo. Alors évidemment, tant qu'on n'a pas vu les images, etc., de ce que ça va donner vraiment. Voilà, mais en tout cas, moi je trouve que depuis le temps qu'on attend un peu d'une adaptation sympa de Halo en film. Mais si, moi
enfin,
j'ai.
Non, je te promets.
Oui, mais si. et en plus, surtout vis-à-vis de ce qui avait déjà été fait en film de promotion, notamment par Blomkamp, qui est le réalisateur de District 9.
Qui avait l'air chouette. Ouais.
Qui était assez impressionnant. J'ai vraiment hâte de découvrir les différents épisodes de ce film, qui devrait durer 80 minutes, 90 minutes dans sa version collector de Halo 4. Voilà.
Très bien. Alors Plume, c'est à ton tour avec The Cave.
Oui, mais c'est le retour de Ron Gilbert au sein de l'équipe de Tim Schafer, Double Fine. C'est quand même les deux mecs qui nous ont pondu Monkey Island. Donc on peut s'attendre à un jeu complètement con et très intelligent à la fois dans ses mécanismes. Ça devrait être un jeu de plateforme en 2D avec trois personnages aux aptitudes différentes, donc un peu Lost Viking, je pense, dans l'esprit. Et voilà, moi l'idée que ces deux mecs là soient à nouveau réunis, on le savait depuis quelques mois, hein, mais de voir enfin la concrétisation du projet comme ça.
On sait de quoi ça va parler, The Cave.
Je sais pas trop. Une exploration des entrailles de la Terre avec des endroits bizarres. Je me rappelle plus exactement des différents lieux qu'ils ont cités. Je crois qu'il y a un hôpital ou enfin des trucs. C'est complètement. De toute façon, ça va être complètement barré. Et c'est pour ça que je l'attends comme un fou, parce que ces deux mecs-là, c'est des génies, et réunis ensemble, je pense que ça va être le Big Bang. Donc voilà. Donc The Cave, j'attends comme un ouf.
C'est avec Sega.
Julo.
Oui, c'est édité par Sega.
Ah, donc en fait, j'attends plus.
Non, mais je sais pas.
Non, ça va.
C'est pas ça, mais il faut savoir que donc Sega va pas bien du tout.
Ouais.
Et que donc ça peut être inquiétant, je sais pas, quand on attend beaucoup de Ron Gilbert, de son jeu, en se disant peut-être il y aura pas les moyens qu'il faut, ou au contraire pour Sega.
Il a produit chez Hothead.
Vous savez que The Cave, ça va pas cartonner.
Non, mais c'est
bon.
Pas
bah alors, c'est peut-être aussi inquiétant pour Sega, machin, etc. Qui est pas forcément malheureusement.
Ça dépend
malgré toutes les qualités futures du jeu, on n'en doute pas.
À mon avis, le budget du jeu en question doit pas non plus être faramineux, donc tant qu'ils perdent pas d'argent.
En tout cas, pour l'instant, c'est lancé et ça a l'air visiblement de. d'intéresser des joueurs. Donc on le suivra. Moi, mon coup de cœur, je le disais tout à l'heure, c'est cette technologie assez incroyable, Leap Motion, qu'on a découvert comme ça, vraiment sorti de nulle part, hein, même au début. Pour être vraiment franc, on a vraiment
cherché.
C'est le genre
de truc, tu le vois à l'écran, tu te dis, est-ce que c'est pas un pipeau?
Bah voilà, on s'est demandé, est-ce que c'est pas fake? Alors on s'est renseigné, on est allé voir, etc. Puis le fil en aiguille, vraiment, non. C'est...
Au début, on s'est effectivement demandé si c'était un fake. C'est vraiment ça la première vidéo que j'ai vue. Je me suis dit, mais c'est tellement énorme, c'est
alors,
impossible.
Et resituons après, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, c'est donc une espèce de petite boîte, un petit pavé assez fin.
Qui est même pas, qui est grand comme une paume de main.
Voilà, qui se branche en USB sur votre ordinateur, un PC ou un Mac, et qui en fait va créer une espèce de champ magnétique dans lequel, quand vous passez vos mains au-dessus ou sur le côté, il va vous détecter. Et du coup, c'est de la reconnaissance de mouvement vraiment à la Minority Report, mais avec une précision, une rapidité. Incroyable, on est mais à des années-lumière de Kinect, donc c'est annoncé comme 100 fois plus précis au moins que Kinect.
C'est aussi beaucoup plus rapide.
Ah ouais, et pour un prix quand même qui est dérisoire, puisqu'il s'agit de $70, donc une cinquantaine d'euros. Il est d'ores et déjà possible de précommander, il y aura une quantité assez restreinte au début, et ce ne sera pas avant décembre. Mais ça peut, et dans la vidéo de présentation, il y a des trucs où on peut dessiner, où on peut écrire, bon, ok, tout ça, et il y a aussi du jeu vidéo. Et on imagine très bien les possibilités de ce genre de choses, et c'est quand même assez,
c'est surtout
assez
sur,
fou.
Pour l'instant, c'est sur PC et Mac, déjà, c'est ce qu'il faut préciser. Effectivement, c'est une technologie qui sera sûrement adaptable. Mais il faut aussi voir que ça, tout ce qu'on a vu, ça ne concerne que les mains pour l'instant. Moi, j'ai rien vu sur le corps entier, etc. Donc, oui. je suis aussi curieux de voir ça, parce que c'est quand même une plus grande surface. Mais si ça peut se faire, ça peut être vraiment intéressant, effectivement, pour nous.
Alors, non seulement ça peut être intéressant, parce que c'est plus précis et tout, et ça détecte vraiment bien les mouvements des doigts, etc., etc. Mais moi, par exemple, un truc qui me fasse tout le corps et qui donc induisent des game design où il faut être debout, bouger dans tous les sens et tout, ça me gonfle de base.
Oui, donc c'est plus pratique pour toi d'avoir juste la main. Je comprends très bien, ouais, tout à fait.
Ça m'intéresse plus en tout cas.
On pourrait apparaître en hologramme peut-être avec ça pendant un concert de Snoop Dogg. Hein.
Par exemple.
Ah, pas mal,
ça pourrait
joli,
être pas mal. Hein.
Joli, joli.
Donc du coup, être debout, ça serait bien. T'arrives, hop, Snoop Dogg il fait hey, it's Ryan! Et hop, tu te mets à rapper et tout.
Il suffit d'avoir le choix, quoi, les deux, quoi. C'est intéressant de voir le truc, effectivement.
Parce que s'il va pas dire ah, voilà, here is the end of Ryan!
Il y a des gens qui travaillent ici, monsieur. Donc, ce qu'on a vu, effectivement, c'est au-dessus du petit capteur. Toi, tu m'as dit que t'as vu un truc dans la vidéo où, effectivement, il tape devant le capteur. Je sais plus qui m'a dit ça.
Non, c'est moi, c'est oui, toi. Parce qu'il y a un moment, il dessine sur un bloc, et en fait, ce qu'il dessine sur un bloc est reproduit à l'écran comme s'il était en train, en fait, de dessiner sur une tablette graphique.
Exactement.
Sans tablette graphique.
Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est.
Ça doit être inclinable.
Voilà, inclinable ou pas, comment est-ce que c'est détecté exactement, parce qu'on n'a pas non plus tous les détails sur le truc, mais en tout cas c'est particulièrement intéressant pour l'avenir, effectivement.
Moi ça m'étonnerait pas qu'il y en ait au moins un ou deux présents à l'E3,
oui, ce serait surprenant,
chez un éditeur ou chez machin, enfin, ne serait-ce que j'aurais vraiment envie de le voir, de
l'essayer. Ah bah oui, mais surtout effectivement de voir si c'est aussi précis et rapide
que la vidéo, ouais, parce que ouais. Bon, la vidéo elle est super, mais Kinect, ouais, c'est super, le PlayStation Move c'est super et machin, ouais. Puis bon, voilà.
Moi, ceci dit, il y a la présentation chez CBS, hein, qui avait fait un sujet dessus,
exactement.
Où tu vois le mec qui fait ça des mots à la télé.
Et d'ailleurs, la CBS compare naturellement à Kinect, en fait.
Ah bah,
la chose,
oui,
c'est
la question.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça sort pas non plus de nulle part. Hein. Ça fait quand même 4 ans qu'ils préparent leur truc, même s'ils en ont pas parlé avant. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'en parler à ce moment-là.
Assez impressionnant, si vous ne l'avez pas vu, allez sur Gameblock. Leap Motion, L-E-A-P Motion. C'est vraiment le truc impressionnant de ce mois-ci, technologiquement, clairement. Et même au-delà du mois, hein, pour l'instant, moi, c'est le truc le plus fou que j'ai vu depuis vraiment très 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 longtemps.
Clairement.
À suivre. Allez, on va passer au coup de gueule. Oui, du sang, des larmes, de la sueur.
Ça, c'est sûr.
Bon, alors, le coup de gueule de plume, on l'a fait. Emeric. Ah oui. L'intolérance des joueurs sur Diablo 3. Alors, mais qu'est-ce que t'aimes, tu vas unleash le Kraken.
Ouais, ça, ouais, là. On m'a beaucoup reproché ça. Bon, maintenant, je comprends les difficultés qu'il y a eu. Enfin, faut remettre les choses en perspective. À la base, le vrai problème, à mon avis, vient plutôt du fait qu'il fallait se connecter au jeu, se connecter sur les serveurs pour pouvoir jouer à Diablo 3, alors qu'on peut le jeu finir en solo. Je crois que le gros souci, il est là.
Ce qui est quand même compréhensible que des gens gueulent sur une connexion online permanente. Autant sur le multijoueur, okay.
Mais c'est ce que je te dis.
Autant sur la campagne solo, tu peux
on
pas
était prévenu
train,
au moins pour le coup.
Pas y jouer dans l'avion.
Non, je suis
ça fait ramer le jeu, ça a fait des bugs, etc.
Ouais, je sais, je fais le test, je connais le problème.
C'est relou.
donc là, tu prêches un convaincu. Maintenant, pour ce moment-là, c'est au moment de la sortie, les gens ont pas pu jouer à leur jeu dans la foulée. On arrive à des notes absolument catastrophiques sur Metacritic.
C'est des gens comme Plume.
Ouais, ah ouais, moi ça j'ai gueulé.
Non mais tu peux
gueuler comme un fou.
Tu peux gueuler, mais ça n'a quand même duré que 48 heures en gros.
Ouais, mais c'est déjà suffisant. Imagine, t'achètes une voiture.
Oui.
Ah bah tiens, tenez. Allez, voici les clés. Bon, on va le démarrer dans 48
heures. Tu savais que ce serait réglé.
Comment?
Plume.
Tu oui. savais que ce serait réglé.
Dans un podcast
tu
récent, tu gueulais sur les bugs de Thongs of Virtue. Je...
C'est ouais, ça, ouais. Voilà. Mm.
Et il y a un truc juste qu'on n'a pas pris en compte. Et mm. c'est quelque chose qui, à mon avis, a appliqué généralement à tous ces trucs-là qui font des levées de boucliers de ouf. Mm. C'est que le développeur, en fait.
Doit payer une doit taxe payer une... Pour un patch, c'est ça?
Il doit, pour pouvoir mettre à jour, enfin, diffuser une mise à jour sur l'Xbox Live, il faut payer, je crois que c'est un truc comme.
40 000 $, je crois.
Quelque chose comme ça. C'est cher, je crois. Et c'est probablement pour ça qu'il n'a pas pu le faire, voilà.
Bah,
donc c'est pas vraiment directement la faute
du
développeur de ne pas sortir la mise à jour en tout cas.
Bah, après, il a fait le bug, si. En tout cas,
fait le bug.
Le rapport avec Diablo. Là.
Et le rapport avec Diablo, c'est que beaucoup de joueurs se sont évidemment retournés directement vis-à-vis de Blizzard par rapport à ça. Or, on ne sait pas si c'est véritablement la faute de Blizzard ou de ses prestataires de services qui fournissent à Blizzard une architecture, des serveurs, machin, etc.
Le client final n'a pas à le savoir.
Évidemment, bien sûr, mais avant d'accuser directement quelqu'un, ça, c'est pas forcément mauvais de savoir un peu comment ça se passe.
Non, mais on moi, je m'en fous de savoir comment ça se passe au moment où je me connecte. Je veux que ça marche.
Mais je suis...
Oui, alors, bien sûr.
T'as absolument pas tort. Maintenant, si mon problème à moi, c'est que je trouve que les joueurs sont un peu rapides pour juger et défoncer le jeu à une vitesse grand V. Mmh. Alors je comprends,
c'est cool
non, mais,
ça.
Non mais y a,
j'aime bien.
Non mais il y a problème.
Enfin, j'aime bien le troll, mais après. Voilà.
Maintenant c'était. On savait que ça allait être un peu comme ça. C'est pas la première fois sur les jeux où on mais doit se connecter.
Ça par contre c'est pas normal.
Alors voilà, mais c'est à dire que c'était prévisible.
C'est pas,
mais
normal.
Pas normal. Je suis d'accord.
Mais
oui. Non, on est tout à fait d'accord.
Street,
maintenant
de
là à défoncer le jeu,
de l'action
le jeu
Facebook.
Ne vaut, le jeu est très bien.
On a vu que lors de l'introduction de l'action Facebook à Wall Street, donc là on est vraiment. C'est sérieux. Hein, c'est au-delà du fait que ça a baissé après, il y a eu des bugs informatiques qui ont bloqué le truc pendant quelques heures.
Oui, oui.
Donc, quel que soit. Dès qu'il y a du numérique et qu'il y a un gros engouement,
mais voilà.
Souvent ça congestionne et on a beau avoir prévu les choses,
mais voilà, ça
plante.
Reste de l'informatique, il faut être un petit peu tolérant aussi. Le jeu est loin d'être mauvais, donc voilà. Et surtout, ça a duré que 48 heures, c'est quand même très rapide pour régler un problème. Et encore, moi j'y jouais à 2h du matin alors que le jeu est sorti à minuit,
aussi,
donc faut arrêter de déconner quoi. Donc, moi je trouve qu'il y a des gens qui profitent aussi d'être derrière un écran et de balancer la sauce et de dire voilà, c'est de la merde et machin, blablabla. C'est un peu facile et ça crée un effet boule de neige. Et moi, c'est un truc qui me gonfle, c'est ça que je voulais dire.
Je partage ton avis, mais je crois qu'on est unanimement d'accord pour dire que le lancement a été assez raté,
oui, globalement,
que le service n'a pas été bien respecté,
oui,
que à l'avenir, on espère que ce sera mieux. Fait.
Oui.
Pour autant, effectivement, moi je te rejoins totalement. Courir tout de suite et crier au scandale, machin, comme si on avait tué père et mère.
Je trouve ça rigolo, moi, les mecs qui ont posté des trucs genre. Ouais, alors moi je mets deux parce que les corbeaux sont pas très mal faits, sont pas très bien faits, machin. Mais par contre, la durée de vie elle est mortelle parce que tu tapes ton mot de passe, ça marche jamais. Mais il y a un moment, ça va réussir.
Mais il y a un mec qui a fait ça, qui a fait genre le test du jeu en 30 secondes avec une vidéo et tu vois, il tape, t'entends un truc, t'appelles, le mec il boit un café et tout. Puis à la fin, il gueule parce qu'il arrive pas à rentrer dans le truc. Donc oui, c'est super drôle. Et c'est vrai qu'il y a un problème. Maintenant, il faut quand même rester calme. Ça aurait duré une semaine. Là, ça aurait été absolument scandaleux. Évidemment. Et là, il y avait de quoi de défoncer le jeu.
Évidemment. Allez, autre coup de gueule, celui de Raon, les jeux Nintendo, pas moins chers, dématérialisés qu'en version boîte.
C'est quand même dingue. Donc, Nintendo fait une annonce chouette. Enfin, ils vont se mettre au réseau, etc. On va le voir là.
On va le voir. C'est complètement. C'est intéressant.
Donc, voilà, ils rattrapent leur retard. En tous les cas, ils témoignent de la volonté de le faire et de se lancer dans la distribution dématérialisée. On l'a déjà dit avec Super Mario Bros. 2 sur 3DS en démat et en boîte. Et ils ont aussi annoncé donc que ce ne serait pas moins cher que les versions boîtes, sous prétexte, si j'en crois en tous les cas la version officielle de Monsieur Iwata, que du point de vue de Nintendo, il n'y a pas moins de valeur à un jeu qui est en dématérialisé qu'à un jeu en boîte. Or, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas tout à fait le cas, puisque
il y a pas moins de valeur, mais il y a moins de coûts, en tout cas, de leur côté.
Déjà, et puis il y a quand même il y a moins de valeur. T'as pas la boîte,
t'as
pas la super notice en 4 volets noir et blanc pourri.
Pas chez Nintendo.
Chez Nintendo, ils respectent ça.
Ah oui, t'as pas les trucs à gratter Club Nintendo non plus.
T'as pas les
points.
Ah, scandale.
C'est vrai, ça, les points Club Nintendo.
Donc après, pour certaines personnes, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, c'est
toi, ça veut dire beaucoup.
Mais ne serait-ce que un geste, tu vois, tu me demandes pas qui divise les prix par deux, quoi.
Un centime.
Mais non, mais comme sur PS Vita, par exemple, tu vois, t'as une différence de 5 euros. Voilà.
Cela dit, les points Club Nintendo, en fait, tu dois les récupérer quand même, vu que t'es logué avec ton compte. Voilà. Ouais.
Mais enfin, je suis bien d'accord quand même. Il y a un moment, le matériel, enfin le le dématérialisé versus la version boîte.
Faut bien que ça nous apporte d'autres avantages.
Bah, oui. Au moins symbolique.
Sur
quoi,
PS Vita, tu payes 5 euros moins cher.
Bah, c'est bien.
Oui. Et Diablo, tu on le paye pas beaucoup moins cher. On le paye pas du tout moins cher, hein, d'ailleurs, tiens, en téléchargement. Hein. Non, tu payes 60 euros.
C'est un scandale. C'est
arrêtez
un scandale.
De vous plaindre, les gars. Vous êtes assis chez vous, vous appuyez sur un bouton et vous pouvez jouer à un jeu. Arrêtez, s'il vous plaît. Bah, ouais. C'est bon, quoi. Vous avez déjà de la chance.
Le... Oui, tu payes pas ton ticket de métro pour aller acheter ton jeu. Ce qui est quand même une économie intéressante.
C'est vrai.
C'est vrai. Enfin, tout le monde n'a pas tout le monde ne vit pas à Paris, hein, donc.
Il y a le métro en dehors de Paris, non?
Non, mais après ça va être le plein d'essence pour aller à la boutique.
C'est le plein d'essence.
C'est pas le problème.
Tu fais 500 km.
C'est pas le problème de Nintendo que t'habites pas à Paris.
Bien sûr. Bon. Effectivement. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose,
hein?
Genre les thèmes du mois, genre les annonces du mois, les annonces.
Mais Julo, il a pas un coup de gueule?
Non, je ne suis
Julo, il a pas de coup de gueule.
Ah d'accord.
Non, non. C'est moi si j'ai un mot très fouillé. Mais
non. Bon, son coup de gueule, ça aurait pu être le PSG qui finit deuxième, mais bon, ça va être le début de la saison.
Bravo mon
annonce du mois et une annonce retentissante. Et là, les true gamers vont faire putain, mais pourquoi vous en parlez encore? Call of Duty Black Ops 2, eh oui quand même. Au mois de mai a été annoncé officiellement. Comment il s'appelle le jeu? Black Ops 2. Ah oui.
Non, non, c'est Black Ops II, pardon.
Ah oui, c'est Black Ops, c'est ça. Black ça Ops me rappelle des choses, ce nom. Donc, a été annoncé le jeu qui, normalement, a priori, devrait exploser une fois de plus tous les records de vente. Et s'il ne bat pas les records de vente, en tout cas, être celui qui se vendra le plus à la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, et en plus, il y a quand même des petites nouveautés, deux périodes, les années 80 et le futur approche avec en 2025. C'est quand même un scénario pour la campagne solo
en branchement et
écrit par David Goyer, co-scénariste des Batman Begins, Batman The Dark Knight et Dark Knight Rises. Donc en gros, c'est quand même pas n'importe qui. Après, on va voir, ça se trouve, il a fait ça en 2-2 pendant qu'il était
pour
au chat.
Pour payer ses impôts, voilà. Ouais.
On ne sait pas, mais enfin bon. Comment vous le sentez? Est-ce que il y a un petit peu de renouveau? Est-ce que ça vous excite un peu plus que les derniers qui, quand même, globalement, commençaient à tirer un petit peu la langue?
Bah voilà, moi, c'est pas tellement le contenu ou quoi que ce soit, qui, même si c'est le truc qui motive, hein, l'intérêt sur le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir si les gens vont pas se lasser un peu, parce qu'on en est quand même à quoi, 4e, 5e itération, un truc comme ça. Dans l'année, je veux dire, enfin, qui se suivent d'une année sur l'autre. Je crois que c'est là.
En plus.
Ce 7e.
Modern Warfare,
Modern Warfare,
World at War,
Modern Warfare 2, Black Ops,
ouais, ça,
Modern Warfare 3, 5, ça va être le 6e.
Voilà, 6e. Est-ce que les gens vont pas se lasser un petit peu? Est-ce qu'il va pas y avoir une petite descente? C'est ce que je pense et je suis curieux de voir ça en fait. Voilà, c'est surtout ça qui moi m'intrigue là-dessus.
Ah oui, non mais alors ça c'est, effectivement c'est la dimension business, économique, voilà. En dehors du jeu et réception, d'autant plus qu'il y a les autres acteurs, en particulier Electronic Arts, qui commencent à attaquer
fort
avec des Battlefield 3, etc., pour essayer de le renverser.
Mais Battlefield, c'est plutôt le prochain Battlefield, plutôt l'année prochaine, ouais. Donc on va dire que cette année
c'est Medal of Honor qui colle en face
et qui a moins d'impact chez les joueurs.
Bah, il sera peut-être plus joli puisque ce Black Ops 2 reprend encore une fois toujours le même moteur. Mais effectivement, enfin, si on se fie en tous les cas au premier Medal of Honor rebooté d'il y a
deux ans,
je me sens pas très inquiet pour Call of Duty. Quoi. Voilà. Après, en dehors de ça, moi, je suis quand même curieux de voir jusqu'où ça va, ces embranchements dans la campagne et ces possibilités de choix, et comment est-ce que ça s'inscrit aussi dans la formule Call of Duty, qui est quand même un roller coaster hollywoodien. Enfin, en tous les cas, c'est pour ça qu'on joue au solo. Et puis, il y a toute la question du multi, qui apparemment serait quand même globalement assez refondu.
Et qui cartonne quand même toujours autant. Hein,
bien sûr.
Bah, c'est
décrié certes, parce que énorme série, mais enfin, dans les faits, les gens y jouent à mort.
Oui. Bon bah on verra, on est même peut-être en train de voir.
En tout cas, franchement, moi je suis aussi pour redorer un peu le blason de la série des Black Ops.
Oui.
Moi les Modern Warfare commencent à me lasser mais fortement. Le premier Modern Warfare, grosse claque, moi je joue pas trop FPS, j'avais vraiment kiffé.
Ouais.
Mais alors le 2, bof, le 3 m'a fait chier. Et Black Ops, j'avais vraiment
Black
aimé.
Ops, il est vachement
bien. Vraiment trouvé chouette. Donc finalement j'ai envie quand même de voir un petit peu lui donner sa chance, en tout cas, même si clairement le phénomène de lassitude commence à être présent.
Et puis moi, le truc d'anticipation, ça me tente pas des masses, mais c'est vraiment très personnel. D'autant qu'en plus, il y a Ghost Recon Future Soldier qui est passé avant et qui est quand même un bon titre aussi.
Ouais, clairement.
Donc, bon.
À suivre. Du côté de chez Bungie.
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 Ah, du côté de chez Bungie.
Bungie.
Ah bon. Bon, en gros, les gens qui ont créé Halo. Alors, vous le savez, maintenant, ils sont plus sur Halo, puisque c'est 343 Industries. On est en train d'en parler au cœur de l'E3, puisqu'il y a le 4 qui arrive. Mais il y a des histoires de procès, de bidules et compagnie qui font qu'on a découvert eh bien, plein de choses, et dont Destiny. C'est quoi, Destiny?
Bah, en fait,
Destiny,
c'est le nom de leur prochaine série. C'est apparemment un univers entier. Ils ont prévu des trucs assez énormes. Donc ils ont signé, on le savait depuis longtemps, avec Activision, un contrat de 10 ans. Et donc le premier jeu Destiny 1 devait sortir, d'après le contrat en tous les cas, fin de l'année prochaine, sur Xbox 360 et Xbox 720. Donc l'année, enfin,
à
en
noter
cas, c'est comme ça qu'elle est.
S'il y arrive à le faire, il y a max de bonus, hein. C'est des dizaines de millions de dollars. Ouais, vous avez peut-être vu aussi tous les bonus et les rémunérations de Vampella et West.
Zampella,
chez Infinity Ward. Les deux
qui
années
sont justement en procès avec Activision.
Et bah, c'est sympa de faire Call of Duty.
T'as envie de finir ton jeu.
Ah, mais oui, ça avait cartonné.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent quand même. Bon, bref.
Bon, enfin, on va dire que la
rétribution,
ouais, enfin la
gradation,
ouais, en gros ils étaient 20 à vraiment à gagner des bonus, dont deux, ouais, c'est ça, un peu plus, dont deux qui quand même prennent à deux plus de quasiment 40% de tous les bonus de toute la boîte. Ils l'ont pas fait à deux, le jeu.
Mais c'est comme ça dans les entreprises,
bah,
de toute façon.
Mais,
bah, regarde,
mais le changement, c'est maintenant, mon ami.
Ouais, mais
bah, il est temps,
par exemple,
de changer.
Il prend
le
combien
monde
sur Game Blog, hein?
Oh, bah, je prends, hein, à peine 2-3 millions,
ouais, voilà, bon bah,
merde. Et donc Destiny.
Et donc Destiny, voilà. Donc ça va être un jeu tous les deux ans, intercalé avec une sorte de grosse extension, voilà, jusqu'en 2016 ou 17.
Bah, en fait, il y a 4 jeux de prévus et 4 DLC.
C'est ça. Oui. Ça a l'air évidemment encore d'être un truc assez énorme. Il s'agit toujours d'un shooter. Dans une ambiance de science fantasy. C'est-à-dire, alors la science fantasy, c'est quoi? Bah, par exemple, Final Fantasy 7, c'est de la science fantasy. C'est un mélange entre technologie et des mecs avec des épées, ou je sais pas, enfin, ça, y a plein de possibilités pour faire de la science fantasy différente. Donc voilà, alors évidemment on n'a aucune image, on n'a pas d'autres infos particulières sur ce que ça va être, puisque c'est une non-annonce, enfin, c'est un truc qu'on a su parce que le contrat liant Activision et Bungie est sorti dans le cadre du procès Zampella West. Ils ne présentent rien non plus là à l'E3, ils seront encore absents cette année Bungie, mais en tous les cas on en entendra parler probablement beaucoup plus dès l'année prochaine, et c'est quand même un très gros studio et un très 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 gros projet. Et vraiment, c'est énorme, quoi.
C'est énorme. On passe rapidement sur d'autres annonces qui ont été faites en mois de mai, parce qu'on est en train de vous en parler sur Gameblog, dans les news, dans les vidéos, etc., puisqu'on est au cœur de l'E3. God of War Ascension, bien sûr, à l'heure qu'il est, probablement, on vous a dit ce qu'on en a pensé, manette en main. Elder Scrolls Online aussi, qui nous intéresse beaucoup à l'E3.
Oui.
Company of Heroes 2.
Qui était, alors là, il n'est pas à l'E3, lui, pour le coup, mais... puisque THQ n'y va pas. Mais voilà, suite d'un des tout meilleurs titres de stratégie temps réel de tous les temps.
Elle va. Très bien.
Donc voilà, très bien aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Il y a eu une autre annonce ce mois-ci.
Bah, Lord of Shadow 2, vous pouvez nous en parler ou pas?
Alors oui, bien sûr.
Ouais, alors c'est comment? Alors c'est bien ou pas?
Alors tu sais qu'il a été annoncé le 31 mai.
Ouais, et Dave
là,
Cox,
bon. Donc effectivement, nous enregistrons à un moment où nous ne le savons pas, mais qu'est-ce que ça doit être bien. Pour ça, allez sur gameblog.fr, un site pas trop mal, où normalement vous devriez avoir le trailer et tout ça depuis quelques jours maintenant. On va passer à autre chose, à d'autres thèmes. Un thème ce mois-ci qui est revenu, on a fait des podcasts, on est revenu aussi après, avec les crises des boutiques spécialisées de jeux vidéo en France, en véritable déroute. Puisqu'en 1996, on comptait 1136 boutiques spécialisées de jeux vidéo en France. 10 ans plus tard, en 2006, c'est 866, donc déjà bien dévissé. Et en 2012, cette année, sont référencées que 487 boutiques spécialisées, c'est-à-dire quasiment divisé par 3 en l'espace de 16 ans plus précisément. C'est quand même assez inquiétant, ça va pas du tout dans le bon sens, d'autant plus qu'on est plutôt soucieux du fait que ça ne va pas s'améliorer, voire s'accélérer encore avec le dématérialisé et ce genre de choses.
Non, moi je suis persuadé que ça va être comme les disquaires, ça va disparaître pratiquement complètement et puis peut-être renaître pour des publics de niche quelques années plus tard
dans les grandes villes.
Une fois que la fin du monde sera passée, il y a des chances.
C'est ça, dans 2-3 000 ans encore. Ouais.
En tout cas, vous le savez, il y a un podcast que nous avons dédié à la chose, vraiment un podcast sans langue de bois. On vous donne tous les prix, les chiffres,
quelles sont les marges que se font véritablement les revendeurs, les grossistes, les éditeurs, etc. Ce qui permet aussi un petit peu de casser la boîte à fantasmes, puisque on se rend compte que effectivement pour un revendeur en tout cas, il est parfois très
compliqué. Il a les dernières miettes qui restent.
Ouais, il a vraiment les miettes et parfois même il vend presque à perte. Donc il faut réinventer son système, sa manière de commercialiser les jeux vidéo, apporter d'autres éléments, des t-shirts, des BO, des guides stratégiques, enfin diversifier un petit peu l'offre parce que sinon clairement c'est la fin quoi. Qu'est-ce qui se passe?
Diversifier.
Bah ouais, du troisième groupe peut-être
tout à fait
passé.
Moi je voudrais souligner un autre truc que j'appréciais beaucoup à l'époque, alors ça n'a pas forcément rapport avec tous les chiffres etc, mais ce qui était sympa aussi dans les magasins de jeux, c'est que il y avait moins de gros titres quand ils arrivaient, il y a beaucoup de gens qui se réunissaient pour les recevoir ensemble, et t'avais une communication, une vraie communauté entre guillemets. Il y a une communauté aujourd'hui avec l'internet etc, mais t'avais une vraie communication avec les gens avec qui attendaient.
Oui, c'est ça, c'est vrai, moi aussi j'ai tilté, dit l'internet, c'est mignon.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Diversifier.
Oui.
Et donc voilà, donc ça c'est un truc que moi je regarde beaucoup parce qu'aujourd'hui voilà, tu arrives dans un magasin, t'achètes ton jeu, tu repars, et il y a moins ce côté copain où tu discutes avec le gars, et des mecs que tu connais même pas qui te donnent un avis sur le jeu etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là et qu'on le fait ça toutes les semaines. C'est bon là ou pas? On est là ensemble pour le faire.
En tout cas, j'espère que ce nombre de boutiques ne deviendra pas
c'est triste, ouais.
Portion congrue comme les croûtenards qui hantent certains lieux. Espérons que ça ne devienne pas des légendes urbaines.
Les quoi, les croûtenards?
Les croûtenards.
Divers spécifiés.
Tu chercheras sur l'internet. allez, un nouveau thème, l'heure des bilans. Il est temps de faire le bilan. Et le bilan des boîtes de jeux vidéo avec un Sony très très en difficulté. 4,4 milliards de pertes, qui atteint son niveau le plus bas en bourse depuis 32 ans. C'est quand même assez compliqué. Kazirai, le nouveau patron, qui veut en refaire le numéro 1 du jeu vidéo, et actuellement à l'E3, on a déjà un indice sur est-ce que ça part bien, est-ce que ça part moins bien. On lui souhaite vraiment à Sony le meilleur du monde. Il faut qu'il y ait cette diversité de constructeurs. Oui. Il faut qu'il y ait la concurrence qui joue à plein. Mais c'est vrai que pour Sony, globalement le groupe. Hein, parce que là les milliards de pertes, c'est pas pour la branche jeux vidéo, elle y contribue, mais c'est le groupe en général, c'est chaud hein.
Bah c'est titanesque pour un groupe comme Sony qui en plus, enfin les années précédentes n'étaient pas forcément au beau fixe non plus quoi. Non, je veux dire
ça fait des années,
tout d'un coup boum cette année quoi, ils ont pas un trésor de guerre non plus immense.
Idem chez Sega, qui véritablement plonge mois après mois. C'est un peu la spirale sans fin, là.
Mais ça, c'est pareil.
C'est glauque.
Pour Sony, c'est un peu plus compliqué à appréhender, mais pour Sega, ils sortent des très bons jeux. Hein, genre, je sais pas, mais quand tu sors un Bayonetta et que ça fait ce que fait Bayonetta. Ouais.
Ça fait longtemps quand même, hein, Bayonetta.
Ouais, mais après, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de à part Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qui cartonnent, qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme jeux qui rapportent vraiment des sous à la
boîte? En dehors du Japon, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Bah, ouais.
Parce que Yakuza, oui, il est. Ça va, il s'en sort, on va dire. Oui. Mais après, ouais, c'est des jeux, effectivement. Tu penses aussi à Mad World qui s'est vautré.
Binary Domain.
Au Binary Domain. Ouais, c'est des bons
jeux.
C'est
un peu tous les jeux Platinum, en fait, tu sais.
Je suis horrifié. Je suis en train de lire la définition de croûtenard et je suis horrifié.
Alors, il faut savoir que voilà, désormais sur Twitter ou Facebook, vous pouvez me donner des mots que je dois placer dans les podcasts. Et donc, aujourd'hui, le mot est croûtenard.
Donc, un croûtenard, c'est quoi?
Non.
J'ai pas envie de gâcher.
Il faut le suspense.
D'accord.
Il faut que les gens aillent. Parce que du coup,
mais vous avez le droit de regarder.
Mais voilà. On n'est pas obligé de s'apesantir là-dessus non plus. Hein.
Il y a juste un truc auquel je pense aussi, c'est.
Oh
mon dieu!
C'est affreux!
On va enchaîner!
Comment t'as osé passer un mot comme ça?
Il y en a qui vont bien!
Juste,
on demanderait ça à Papayou.
On parlait il y a un an ou deux, ou encore quelques mois, qu'il y a saturation vraiment au niveau des sorties de jeux, etc. Et je pense que tout ce qu'on voit là avec tous ces éditeurs.
Ah, c'est eux qui platissent en premier, oui, c'est certain.
Et en fait, derrière, voilà, on voit vraiment, c'est violent, le coup près il arrive, et je suis pas surpris du tout qu'il y ait des THQ, qu'il y ait des Sega qui en pâtissent énormément.
THQ, c'est un autre problème.
Ah, oui, ou même le studio qui a fait Amalur, là, qui est.
Exactement,
oui, le studio qui ferme, alors que leur jeu s'est vendu à quoi? 1,5 million?
1,4 million?
Oui, mais ils avaient projeté 3 millions.
Ils avaient projeté 3 millions pour sortir de leur dette. Et donc c'est dramatique, mais finalement c'est cette saturation juste derrière, ça coupe quoi. Donc il va bien falloir un moment que les jeux soient plus étalés sur l'année, c'est obligatoire quoi. Sinon il y a trop de morts.
Et puis c'est vraiment la crise. Enfin,
alors il y a ça aussi, bien sûr.
Oui, mais oui.
Ouais, enfin c'est la crise, ça dépend.
S'ils étalent sur l'année, c'est pas trop la crise.
Ils sont pas, alors, ils peuvent ne pas être tous et plus étalés, ils peuvent aussi être un peu moins chers, trouver d'autres gammes de prix, etc.
Il va falloir changer en tout cas.
Plume.
Oui. Je disais quand les patrons. Enfin, vous voyez, quand une entreprise va mal et que les patrons continuent à percevoir le même salaire.
Tu penses à Atari par exemple?
N'importe quelle boîte,
vous
de toute façon, c'est comme ça dans toutes les boîtes.
Donc, le canard enchaîné avec Atari. Donc, ouais. Qui a des pertes assez substantielles et les patrons qui, pour 10 jours de travail par mois, se payent plus de 500 000 euros.
Bon, mais ça, c'est comme ça dans toutes les entreprises. De toute façon,
ouais,
on le sait.
Quand même,
donc,
à un moment,
non, nous, on travaille plus de 10 jours
par mois. J'ai envie de dire stop.
Ah bon?
Bah oui.
Dire stop.
T'as combien toi?
15 le mois dernier.
15 le mois dernier, c'est ça. D'accord.
Et il y a quand même des boîtes qui vont mieux, on va dire. Square Enix, après une période assez compliquée ces dernières années, eh bien, renoue avec les bénéfices. Blizzard, bon, bah, ça va. une photo qui m'a fait sourire, c'est... et qui a fait tellement rager les trolls et compagnie, c'est donc sorti de Diablo 3, etc. Bon, les gens, Error 37, est-ce que tu veux. Mais chez Blizzard, sur le campus américain, il y avait une grande table avec je sais pas combien de centaines de bouteilles de champagne qui étaient là, genre ils étaient en train de faire la teuf. Tout va bien pour Blizzard.
Attends, 3 millions et quelques la première semaine. Et
24 heures.
En boîte, ils sont à 6,6 millions. 6 millions,
voilà, 6 millions 5 en une semaine et demie, c'est bon quoi.
Tout va
Error 37.
Sur PC et Mac.
C'est ça.
Parce que c'est... Non mais sur PC et Mac.
C'est génial, les gens disent c'est de la merde. Et 6 millions et demi en une semaine comme ça. C'est fabuleux quoi.
Allez, autre thématique, les jeux d'occasion. Avec une citation de notre ami Michael Pachter. En fait c'est Pachter.
C'est la chaleur en fait. C'est surtout ça.
Packer. Non, c'est Michael Packer. Les Américains disent Packer. Et en français on dit Pachter. Bon, pas bon. C'est pas cher. Qui dit: je pense que l'industrie va se désintégrer. Je pense qu'il n'y aura plus de jeux vidéo si les consoles next-gen ne soutiennent plus l'occasion. Vous entendez ça, Sony et Microsoft? Vous devez soutenir les jeux vidéo d'occasion. Je ferme les guillemets. Pas mal comme sortie.
Ah bah, il a entendu l'appel de Raon il y a deux semaines dans le podcast qui disait oui, pour les jeux d'occasion dématérialisés il faudrait une petite taxe, on les revend tout ça. Je pense qu'il a entendu ça.
Non c'est date d'avant.
Rappelons aussi juste avant de lancer ce petit débat que Jack Tretton, le patron de Sony US,
ça c'est curieux ça.
Lui se dit à titre personnel, c'est-à-dire que limite il sort un peu de son rôle de boss, il dit
c'est ça qui est curieux.
Bah moi je suis contre le blocage du jeu de casse, voilà. Donc c'est quand même, on va dire, il y a des signaux un peu rassurants là. On était parti, on était en train de partir en plein délire, enfin délire, en pleine vision. L'occasion, c'est fini, les gars.
Mais c'est certain que les mecs, ils étudient le problème.
Ça pédale un peu là.
Mais c'est logique. Moi, je suis à 100% d'accord avec l'analyse de Pachter sur la question.
Et d'ailleurs, on en a parlé dans des précédents podcasts où on disait finalement que le marché de l'occasion alimentait aussi le marché du jeu neuf, quoi. Ouais. C'est-à-dire que grâce au marché de l'occasion, certains peuvent revendre leurs jeux pour en acheter des nouveaux, alimenter directement le marché des jeux neufs.
Et puis tout. Et puis, en plus, statistiquement, les gens qui achètent le plus de jeux d'occasion sont aussi les gens qui achètent le plus de jeux neufs, parce que ce sont aussi les gens qui revendent le plus de jeux d'occasion. Donc, si tu leur coupes une partie de leur économie,
je me suis trompé un homme mille fois. J'avoue que j'ai pas compris.
Non, mais ça devait être pas trop compliqué. Non, mais j'ai eu un moment de c'est trop chaud là. Mon cerveau s'est mis en veille pour économiser un peu d'énergie. C'était peut-être très
d'accord. Ceux qui achètent, ils achètent.
Voilà, c'est ça.
On va résumer.
Mais ils achètent aussi parce qu'ils ont les moyens d'acheter. Et ils ont les moyens d'acheter parce qu'ils revendent. Voilà.
Mais quand tu multiplies par deux, et ben ça devient bien.
Fouapi.
En tout cas, non mais c'est intéressant. Merde, quoi. Et de voir que le consensus n'est pas total. Donc il y a pas de consensus.
Ah bah oui, mais c'est-à-dire qu'en fait les seuls qui se sont vraiment exprimés publiquement en disant il faut que les consoles soient verrouillées et c'est génial, c'est des gens comme Volition, comme des développeurs, quoi. Voilà. Ouais.
Parce que eux, ils...
C'était la première partie d'une réflexion, quoi. C'est-à-dire, techniquement, on s'est aperçu que c'était possible. Il y avait des rumeurs qui disaient que les prochaines consoles, les consoles next-gen, allaient effectivement intégrer un système bloquant l'occasion. Mais enfin, je veux dire, à part ça, tu sens que les gens, ils tâtonnent quand même.
Et c'est peut-être aussi un peu comme en politique, où on sait que souvent, il y a des idées qui sont testées, qui sont envoyées comme ça, un peu évidemment. À la pêche, pour voir comment l'opinion publique réagit. Puis si ça réagit pas si mal, on fait d'ailleurs, loi, machin. Et puis sinon, on teste un peu ces idées. C'est peut-être un petit peu ce qui est en train d'être fait en ce moment.
Je pense.
À la fois, on s'attendait pas à ce que les gens disent plus l'occasion, génial, allez-y, banco, trop super, et des jeux plus chers, ouais. Allez, autre sujet, là, on parle de petit prix. Alors, une nouvelle technique pour vendre les jeux vidéo et les consoles, surtout avec Microsoft qui essaye, on va dire, la vente de la Xbox 360 aux États-Unis avec un abonnement, donc une technique qu'on connaît bien dans la téléphonie mobile. Donc pour $99, vous repartez avec une Xbox 360 4 Go et un abonnement en fait de 24 mois au Xbox Live. Au final, quand vous faites le calcul, genre combien ça te coûte vraiment à la fin avec les 24 mois, etc., on se rend compte que ça coûte à peu près $40 de plus, donc une trentaine d'euros.
C'est que pas le prix quand tu prends
si
pas
tu
la subvention.
Tout d'un coup, mais qui t'aurait coûté du coup plus
donc
de
donc t'as payé
$400.
Ta console $130 finalement si tu comptais t'abonner au Xbox Live.
Non, plus
non,
que
non,
ça.
Parce que tu... Oui, plus. En gros, c'est plus de 400.
en tout. À la fin des 24 mois.
Oui, mais en incluant l'abonnement Xbox Live.
Oui, oui, bien
sûr. Je trouve qu'aujourd'hui, quand tu achètes une Xbox à 250 dollars,
voilà,
et bah tu payes le truc, tu les payes en plus. Donc là, c'est intégré. Oui. Donc finalement, ta console, tu ne la payes que 130 dollars si tu comptais t'abonner au Xbox Live.
Oui,
de toute façon.
Oui.
Ah oui. Aujourd'hui, nous, on le paye le Xbox Live.
Oui, bien sûr.
Bah voilà.
Oui, oui.
Donc
ça veut dire que si tu prends
en plus
une console
prix,
normale,
tu plein pot qu'on a payé pour la
console. Tu prends une console normale, tu lui rajoutes 24 mois d'abonnement au Xbox Live, ça te coûte tant. Si tu prends une Xbox subventionnée en signant comme quoi tu vas payer ces 24 mois d'Xbox Live, ça te fait plus que 40 dollars de plus. Voilà. Et 40 dollars de plus étalé sur 2 ans, c'est que dalle. Sans déconner.
Ah oui.
En pourcentage, ouais,
c'est. Bah oui, oui. C'est rien du tout. Et puis surtout, c'est ça permet donc à Microsoft de se placer sous la barre des 100 dollars, qui est quand même fatidique.
Moi, je suis persuadé que c'est une politique tarifaire qui va se généraliser très fortement. Finalement, Sony le fait aussi un peu avec la Vita, avec certaines offres chez SFR,
ouais.
Mais avec un prix qui, là, à mon sens, c'est quand même assez prohibitif. Parce que, ok, c'est pas cher, enfin, avec le 1 euro par jour, machin, ok, mais le prix final est quand même assez élevé. Là, je trouve que c'est plutôt bien positionné et. Une fois de plus en période de crise.
Le problème c'est que Sony peut pas le faire avec
très
le.
Facilement, quoi.
Le problème c'est que Sony peut pas le faire avec le PSN, étant donné que le PSN est gratos.
Oh, et si ça changeait, et si on savait déjà avec les histoires de Gaikai et machin.
Ouais.
Enfin, bon.
Mais Sony ils font déjà, ils t'offrent une bagnole avec
la. Oui, bien sûr, oui.
Bon, par contre tu payes super cher.
Faut que tu ressortes du monde des bisounours dans lequel Raon t'as enfermé la dernière fois. Là.
Hein?
Merde, Raon enferme des gens, j'ai peur.
Parce que dans le pays des bisounours.
Dans quelques minutes, on se re-téléporte.
Mais tu te rappelles pas du précédent podcast?
J'ai une semaine avec lui.
D'accord.
Hein. Bon, personne ne s'en souvient. Mais peut-être que vous en souvenez. Au mois de mai aussi, autre information, en tout cas, moment, temps fort, les 10 ans de la GameCube, fêtée en Europe, puisque vous le savez, elle était sortie le 3 mai 2002. Un podcast est dédié à cette machine, à cet événement, bien sûr, une fois de plus, on le répète. D'autres anniversaires arriveront avec d'autres machines et nous les traiterons aussi en fonction de l'actualité sur Gameblog. Ne vous inquiétez pas, par exemple, on sait chez les fans de Sega que souvent vous dites mais pourquoi les consoles
bah parce que c'est de la merde, voilà pourquoi.
Voilà, et il y a
parce qu'on aime pas Sega.
On est dans notre cœur, mais on le fera en temps et en heure. Allez, on va conclure ce podcast du bilan du mois de mai 2012 avec eh bien, vos jeux du mois, messieurs. On va commencer avec Mimic qui, à la surprise générale, Diablo 3 est dans ton classement, mais il y en a un deuxième.
Oui, tout à fait, Diablo 3, bah, parce que ouais, il suffit d'aller voir le test hein, sur Gameblog, mais voilà, pour moi, c'est un castage qui est quand même très très bien fini, même s'il y a encore des choses à revoir, etc.
J'ai des critiques à faire.
Mais il y a des critiques à faire, hein, ça, je suis tout à fait d'accord.
On peut en parler rapidement, puisque Plume et Raon. Pareil, hein, c'est votre jeu du moins.
Alors, lui, c'est Raon, et moi, c'est.
C'est vrai.
C'est vrai, d'accord.
Mais ça va être beau,
tu vois, on doit changer à partir d'aujourd'hui.
Ah, ok. Bah, les gars, vous avez des trucs à dire, ou voilà, moi, je
trouve qu'on connaît son avis sur Diablo 3.
Ah bon? C'est vrai, bah, t'as moi... aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais.
Bah alors après, c'est un truc que c'est sûr en contexte de test, c'est beaucoup plus difficile à noter tout ce dont on va parler là. C'est pour ça aussi qu'on en reparle après dans les podcasts. Pour ce genre de jeu, la balance et l'équilibre du butin, des points d'expérience et tout ça, c'est très très important. Et je trouve que par exemple, tout ce qui est artisanat dans le jeu, puisqu'on peut fabriquer ses propres butins et ses gemmes aussi, ce qu'on va sertir dans certains de ces butins, est complètement à côté de la plaque quand tu regardes à côté le prix que ça coûte ton auction, par exemple, donc à l'hôtel des ventes. Typiquement, pour faire une gemme de très bonne qualité, enfin on va dire la moitié de tout ce que tu peux faire, ça va te coûter des dizaines de milliers de PO à monter ton niveau, acquérir les composantes qu'il faut, etc. et payer la fabrication auprès du jeweler, alors que sur l'auction, tu y vas, ça te coûte 2000 euros. Voilà, c'est ça le bijoutier. Je joue en anglais, je vous emmerde. Et tu vas à l'auction, tu cliques, et puis ça te coûte 2000 PO. Quoi. Donc il y a un vrai problème entre l'économie.
De toute façon, l'auction house c'est un problème.
Je pense que vraiment, c'est un truc qui est très difficile pour Blizzard d'arriver à trouver un lien correct entre ces deux éléments.
Non, mais déjà, il y a un truc de base, c'est que tu peux obtenir ces gemmes en drop.
Oui, tout à fait.
En Nightmare, en Enfer et en Inferno. C'est pas normal.
Toi aussi, découvre le monde merveilleux de Diablo quand tu connais rien.
En les ramassant en drop.
C'est ça.
Les monstres te les lâchent en fait. C'est-à-dire que t'es pas obligé de les fabriquer. Il y a d'autres moyens de les avoir pour moins cher. Et du coup, forcément, l'économie peut pas tenir la route.
C'est un des gros travaux que Blizzard, enfin, c'est un des chantiers de Blizzard là-dessus, en fait, sur Diablo 3. Ils en sont conscients, ils savent qu'il y a du travail là-dessus.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça la vraie question en fait. Est-ce que par exemple, ils vont virer les drops?
je suis pas I'm not from Blizzard.
Ils pourraient dropper les drops.
Ils pourraient dropper les drops, tout à fait, oui, voilà. Bien sûr.
Non, non, pas du tout, mais en tout cas, ils en étaient conscients quand on les a eu en interview, et ils savent qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là, et que c'est un de leurs gros challenges, notamment aussi avec l'hôtel des ventes en argent réel. C'est effectivement des choses qui sont compliquées, un petit peu nouvelles, entre guillemets, pour
Après, au niveau du jeu lui-même, parce que ça, c'est quand même des points de détail, c'est vrai que c'est quand même exceptionnel en termes de finition. Maintenant, l'histoire est convenue.
Non, bah, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ça, voilà,
tu sais qu'il va y avoir une grosse Tetris, des gros démons.
Ouais. Tout à fait. Non,
t'as des cinématiques de ouf aussi. Les mecs, ça fait des années qu'on leur dit faites un vrai film. Voilà, c'est, je veux dire, les cinématiques de Blizzard, c'est quand même un truc incroyable à regarder à chaque fois en termes d'ambiance, en termes de qualité,
de rendu et tout.
Mais ne me fais pas croire que tu n'as retenu que des cinématiques.
Ah non, 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 bien sûr. Le jeu, je le trouve absolument fantastique, même si j'ai ragé comme tout le monde avec 37. Moi, le problème de l'auction house, donc l'hôtel des ventes, je le ressens souvent parce que, oui, effectivement, j'aurais aimé qu'il y ait un système économique à l'intérieur du jeu en solo qui nous oblige pas justement à aller à sortir. Et quand tu revends des trucs qui valent, des trucs qui sont mieux que ton équipement et qui coûtent 4 pièces à revendre, t'es un peu dégoûté parce que voilà.
T'es équipé comme une merde, toi, quand même.
Bah ouais, mais après, c'est en fonction de ce que tu lootes, quoi. Et voilà, il aurait fallu quand même qu'il y a un équilibre par rapport au solo pur.
Mais ça a toujours été comme ça, et là pour le coup c'est une décision qui se justifie, parce que sinon si tu pouvais trouver en jeu auprès des PNJ des moyens de vendre ton loot beaucoup plus cher qu'à l'auction, tu n'utiliserais pas l'auction.
Bah ouais, mais c'est le problème de l'auction pour ceux qui sont vraiment solo et qui n'ont pas envie de sortir du jeu pour aller à l'auction, et qui n'ont pas envie de se limiter à 10 auctions en même temps seulement. Ce qui est quand même, cette limitation, je la trouve ridicule, et surtout on peut pas annuler en se disant tiens bon, celui-ci j'arriverai jamais à le vendre, je vais le vendre dans le jeu. Bref, ça c'est un gros problème. Mais en termes de jeu, donc je le trouve absolument fabuleux. Je trouve que la courbe de difficulté est parfaite. Qu'on commence en normal et on atterrit, là je suis en cauchemar. Je trouve que l'évolution de la difficulté est vraiment nickel, et en fonction du matos que tu récupères qui te permet de frapper plus fort.
Ça dépend encore de ta classe quand même.
Bah, j'ai fait moine et barbare pour l'instant.
Donc les deux classes de CAC, tu vas t'amuser en enfer, toi.
Ouais, visiblement, ouais, ça a l'air. Ils ont l'air un peu cheatés. Mais.
Non, c'est surtout que comme tu dois aller au contact, tu vas te faire one-shotter en Inferno.
Quoi. Ouais, mais j'envoie mon copain paladin, enfin Templier, et puis. Comment il s'appelle
Ton Templier, t'auras même pas le temps de l'avoir éclaté.
Non, il est bien, bien couvert.
Le truc qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup voir dans le. Enfin, beaucoup creuser dans le test, c'est qu'il y a une vraie marche d'effectivement de progression. T'as raison, une vraie augmentation de la difficulté qui est très très bien calibrée. Mais ce qu'il faut voir, c'est que surtout tu joues pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont achetés Diablo 3, je pense, et qui n'avaient pas joué aux autres Diablo, et il faut bien avoir conscience de ça. C'est-à-dire que tu fais le jeu en normal, et après tu passes aux autres modes de difficulté, et c'est une autre manière de jouer, on peut dire.
Tout évolue surtout. Voilà. Que ce soit l'équipement, les gemmes, et surtout l'artisanat.
La manière dont tu construis ton perso, entre guillemets, puisque tu
peux changer. La manière dont tu joues.
Voilà, exactement.
Parce que en normal, tu roules sur les monstres, tu vois. Tu te familiarises avec les premiers pouvoirs, un peu quel genre de personnage t'as, et puis t'arrives en normal.
Puis après, ceux qui t'accompagnent sur la gueule, ils sortent des trucs, genre des lasers qui tournent dans les aiguilles d'une montre qui te défoncent en 2 secondes.
Calmez-vous maintenant.
D'accord. Ça n'a plus le droit d'écrire.
On a vraiment fait le tour.
Oui, tout à fait. Mais il faut bien avoir conscience de ça, c'est que c'est un jeu et c'est un concept qui est très bizarre quand même. Ça, je tiens à le signaler pour les gens qui
très Blizzard, tu veux dire.
Très Blizzard, voilà, qui n'ont pas l'habitude. C'est que quand tu refais la même chose dans la forme, mais pas sur le fond, en fait. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre.
Dans la forme, les donjons sont plus les mêmes, puisque c'est toujours généré à l'aléatoire.
Ça reste quand même, tu tapes sur des monstres et tu refais ça avec la même histoire.
Et les grandes lignes de l'histoire, c'est la même chose.
Voilà. Il faut bien comprendre que t'as vraiment d'autres. C'est une autre manière de jouer.
T'as aussi les événements aléatoires qui sont vachement sympas.
Mais voilà, c'est à chaque fois que tu fais un autre mode de difficulté, c'est presque un autre jeu, entre guillemets. Voilà.
Très bien.
C'est pas la même expérience, en tout cas. Effectivement. Et puis il faut y jouer aussi en coop, parce que même si beaucoup le perçoivent comme un jeu solo, c'est quand même pas du tout la même chose en coop. C'est vachement plus fun en coop, et la difficulté est aussi accrue en coop, bizarrement.
Autre jeu qui se retrouve et chez Mimic et chez Plume dans votre sélection du mois, c'est Max Payne 3.
Je te laisse commencer, plus même.
Ouais, si tu veux. Bah écoute, voilà, je l'ai acheté la semaine dernière. J'y ai joué 2 jours en solo. La campagne est merveilleuse. Moi, je trouve qu'on retrouve parfaitement l'ambiance de Max Payne, même si évidemment le côté comique, ces films noirs, étaient un peu mis en retrait pour laisser place à quelque chose de plus hollywoodien, effectivement. Moi, Max avec 10 ans de plus dans la gueule, toujours aussi cynique, toujours aussi pessimiste, mais toujours aussi adroit de ses flingues.
flingue, hein, et il est quand même, il est quand même.
C'est-à-dire que le mec, il est sous, il se gobe des antalgiques, voilà. Et des bouteilles de whisky, mais il vise super bien.
Hein. Mais il est, enfin, il reste, c'est un peu Dr House, mais version flic. De quoi ?
Mais non, c'est pas Mickey.
Ah, c'est pas Mickey Mouse, ça c'est sûr. Et voilà, et c'est un grand jeu d'action, très très minimaliste, évidemment, avec son bullet time, sa signature, on va dire, hein, depuis le premier Max Payne, et que ce soit dans le, en termes de jeu, on a de l'action comme on veut, et très très bien calibré avec une IA qui est plutôt correct.
On
d'ailleurs.
Rappelle que ce ne sont plus les pères de la série qui œuvrent sur cet épisode, oui. Puisque ce n'est plus Remedy, mais désormais Rockstar.
C'est ça. Absolument, avec Dan Houser, donc qui était à l'écriture et qui s'en est sorti, mais comme un chef, que ce soit pour l'histoire ou pour,
mauvais,
ou pour les dialogues, hein, les dialogues qui sont quand même assez merveilleux aussi. Et voilà, et le solo, donc c'est un grand moment.
Tu l'as trouvé un peu court quand même.
Ah, moi je l'ai trouvé très court, mais j'en voulais plus. Hein. Moi, tu m'en donnais encore pour 20h, j'étais chaud.
Moi,
hein.
Je trouve ça nickel, moi, en termes de durée de vie.
Autant pour moi, je suis tout à fait d'accord globalement avec Plume et Raon. On a eu un débat ce matin là-dessus. C'est cette espèce d'effet qu'il y a dans le mode solo, tu sais, qui illustre effectivement ce que tu disais à juste titre, l'état
bah,
de Max Payne.
Il est calmé tout le temps, qu'il pop
voilà.
Des putains de.
Donc, ça trouble un petit peu l'image. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cet effet-là. Alors, au-delà, le jeu est très bien, etc. Mais ça me pose un vrai problème. Au point que finalement, je les zappais très très rapidement sur le multi parce que ça me gonflait de voir systématiquement ces images un peu décalées tout le temps.
Toi,
c'était même en jeu en fait,
jeu,
mais complètement. Voilà, moi, ça m'a sorti du jeu. Alors, Raon, t'as ton opinion là-dessus, je te laisse dire. Et je pense que ça se défend super bien.
Parce que toi, tu suggères que les développeurs auraient dû mettre une option pour enlever ce filtre,
voilà.
Qui apparaît à des moments réguliers de la campagne. Et moi, je pense qu'ils ont justement bien fait de ne pas mettre l'option parce que ça fait partie de la narration, ça fait partie du personnage.
De l'œuvre,
et
en fait. C'est ça que tu veux
et
dire.
C'est fait pour te mettre mal à l'aise, c'est fait pour faire chier, en fait, et pour montrer que ouais, t'es tout le temps sous antalgique, tout le temps alcoolisé.
Et je comprends, mais moi, ça m'a sorti du jeu, ça allait un peu trop loin.
On parle rapidement du multijoueur aussi.
Ah oui, alors le multi, merveilleux. D'ailleurs, j'invite les game bloggers à rejoindre mon crew. La Illuminati Mafia, tapez ça sur Rockstar Social Club, vous allez voir, on va tout défoncer. Donc le multi, pour moi c'est une surprise. Hein. Chez Kran, on l'avait déjà.
Faire la promotion de ton propre crew alors qu'il y a le Game Block Bank
aussi,
qui a été
aussi,
fondé par.
Voilà, exactement. Il y a aussi le Game Block. Ouais, mais on va les défoncer. Mais bref. donc le multi, Kran, toi t'en avais déjà parlé. T'avais dit que c'était bon. Bah je m'y suis jeté et voilà, j'arrête pas depuis que j'ai fini le solo. Effectivement, il y a des modes qui sont très bien. Le Pain Maximum que je trouve bien pensé. Où t'as deux personnes donc, qui incarnent ou Max Payne ou son pote Passos. Eux, ils sont contre le reste. Et si tu butes un des deux, bah, tu deviens justement celui-ci. Et donc, c'est des petits jeux comme ça. Il y a des matchs par équipe qui sont tout à fait classiques. Il y a des affrontements de crew donc, qui sont scénarisés avec, je sais pas, une réception de colis ou trucs comme ça. J'ai pas encore pu tester malheureusement parce qu'on n'est pas assez dans mon crew. Alors, rejoignez-le.
Tiens, je vais chercher la définition de crew, s'il te plaît.
Et donc, le fait est que c'est vachement bien équilibré parce qu'il y a une notion de vitesse en fait qui est intégrée à ton personnage. Donc ils sont rapides, moyens ou lourds.
En fonction de ce que tu prends comme équipement.
En fonction de ton équipement.
Parce que c'est ça qui est génial, c'est que dans tous les jeux qui offrent une progression depuis Call of Duty Modern Warfare d'XP, de niveau où tu débloques des armes et machin et bidule, en gros, si tu t'y mets un peu trop tard. Bah, t'arrives dans la partie, les mecs ils ont débloqué plein de trucs géniaux et toi tu te fais défoncer la gueule. Et dans Max Payne ça marche pas exactement comme ça parce que même si tu progresses et que tu débloques tes armes, si tu prends trop de trucs, ton personnage devient plus lent et sa vie se régénère beaucoup plus lentement. Donc il y a quand même de quoi s'en sortir en étant plus léger, plus rapide et c'est vraiment pas con.
En clair, un titre avec un solo consistant vraiment intéressant, puis un multi plus raffiné qu'il paraissait.
Ah ouais, c'est déjà un des jeux d'année de toute façon, hein, comme d'habitude avec Rockstar de toute façon.
Diablo 3, Max Payne 3 pour l'instant, de grands jeux sortir en mec, on vous conseille vivement, chaudement. Chaudement, non, pas chaudement. Julo, toi,
mais
c'est The
203.
Walking Dead épisode 1.
The Walking Dead, alors je tiens à préciser que je triche un tout petit peu parce qu'il est sorti à la fin du mois d'avril, mais du coup, on n'a pas pu vous en parler. C'est stress, hein. Donc. non autorisé. Non, donc moi j'y ai joué ce mois-ci. Et
putain, dans deux ans on va parler de Max Payne 3.
Pareil, on se moque pas. Moi aussi j'ai joué la semaine dernière. Alors s'il vous plaît.
Non mais on pouvait pas en parler au précédent podcast. Il était même pas sorti, je crois. Donc bref, The Walking
Dead ni en avril ni en mai. En fait, c'est ça que t'es en train de nous dire.
Non mais on a dû enregistrer le podcast avant qu'il sorte.
Dead, donc.
On a enregistré le podcast avant qu'il sorte parce qu'il est vraiment sorti à la fin du mois d'avril. Bref, The Walking Dead, qui est sorti sur Xbox Live, sur le PSN et sur Steam, Mac ou PC, qui est donc basé sur le comic book The Walking Dead.
L'univers du comics.
Ouais. Voilà, l'univers du comics. Non, mais c'est ça. C'est pas une adaptation du comic book. Et qui est donc développé par Telltale, qui a fait notamment les Sam & Max, etc. Et plus récemment Jurassic Park et Retour vers le futur, qui ont été un petit peu décriés. Je pense qu'ils ont. C'était pas si mal que ça, peut-être, mais en tout cas, c'était un peu raté tout de même. Ils ont tâtonné.
C'était pas si mal, mais c'était nul à chier. Voilà, faut le dire quand même.
Ils ont un petit peu.
Dire, c'est de la merde. C'est pas si mal, mais raté.
Non, mais je trouve pas que c'est tellement de la merde.
Mais non, je crois que c'est pas si cool.
Voilà, bref. Ils ont tâtonné un petit peu avec une nouvelle formule qui, là, je pense, est arrivée à vraiment maturité avec The Walking Dead. Donc, en gros, c'est un jeu de zombies, etc., mais qui est en fait une espèce de point and click amélioré avec des séquences un petit peu action, un petit peu stress, etc., dans lesquelles t'as des QTE. Et je trouve que c'est
Voilà pourquoi il adorait.
Et je trouve que c'est très, très inspiré. D'ailleurs, les développeurs, je crois, ne s'en cachent pas, de Heavy Rain. Parce qu'il y a un côté véritablement au-delà du point and click qui est un récit interactif dans lequel les personnages ont vraiment du corps, tu t'attaches à chacun d'entre eux et tu vis une aventure donc dans cette ambiance zombie-esque et qui va se dérouler donc juste avant le début de la série et du comic book. Et donc on va pouvoir croiser quelques personnages, apparemment moi je connais pas la série comic book, mais qui sont dans le jeu.
On croise Glenn et Herschel qui sont dans le jeu
et qu'on découvre du coup avant les événements de la série. Et donc j'ai vraiment adoré. Ça se joue quand on joue sur PC ou Mac, il faut y jouer quand même avec une manette. Franchement, c'est vachement mieux. On va pouvoir déplacer le personnage dans des décors, déplacer un réticule qui va permettre de fixer certains points du décor, trouver des choses, les ramasser, vraiment le côté point and click. Et puis de temps en temps, y a les zombies qui vont débarquer. Et à ce moment-là, c'est des grosses séquences de stress à faire avec des jauges de temps qui t'obligent en fait à réagir très très vite. Et de la même manière, dans les dialogues, tu vas devoir aussi réagir assez vite. Et le jeu est bourré d'embranchements comme dans Heavy Rain. Encore une fois, qui vont complètement changer le cours de l'histoire. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que donc c'est un jeu Telltale, donc un jeu en épisode. Là, l'épisode 1 est sorti, il va y en avoir 5 en tout. Sur Steam, on peut acheter déjà toute la saison, mais sinon, c'est que dalle. C'est 400 points sur le XBLA, donc 5€ pour jouer au premier épisode qui dure 3 heures environ. Et ce qui est génial, c'est que quand tu finis ce premier épisode, donc c'est la fin de l'épisode, il y a un petit finish qui est vraiment sympa, et t'as la bande-annonce du prochain épisode. Et dans cette bande-annonce, tu te rends compte qu'en fait la bande-annonce a été adaptée à tous les choix que t'as fait. Et donc les choix que t'as fait dans le premier épisode vont être répercutés dans le deuxième, puis dans le troisième, etc.
Il y a des petites stats qui te disent tel nombre de personnes, un pourcentage de telle personne a fait ce choix-là comme vous,
Comme Catherine.
Ouais, ça c'est vraiment.
En tout cas, moi ce que j'ai vraiment adoré dans le jeu, c'est le côté récit interactif, c'est la force des personnages, de l'histoire. De l'ambiance, il y a des super musiques, c'est graphiquement super joli, c'est un cel shading, voilà, parce que c'est plus inspiré par la BD que par la série télé. Donc t'as ce cel shading avec les grosses arêtes noires, etc., qui est assez classieux, un peu à la Borderlands.
Ouais, puis c'est très oppressant surtout.
Et c'est oppressant, c'est marrant parce que tu sais que tu vas pas être vraiment super danger. Bon, quand tu perds, tu recommences tout de suite, machin et tout ça. Mais il y a vraiment une ambiance et la formule fonctionne. Je le recommande à tout le monde et franchement ça vaut tellement pas cher que essayez au moins le premier épisode et je pense que vous allez tous être convaincus, tout du moins si vous avez aimé des jeux comme Heavy Rain ou comme les vieux point and click. Un jeu à surveiller, et les ambiances zombies, parce que ça c'est très très bien foutu aussi.
The Walking Dead épisode 1.
Essayez-le.
Ouais. Allez, on va conclure ce podcast avec moi, mon jeu du mois, mon jeu coup de cœur. Alors, il était sorti sur PC il y a déjà quelques mois, mais il vient de sortir sur Mac. Il s'agit de D-Rester. On parlait d'expériences pas chères, vraiment différentes, et certes un peu courtes, mais qui vous marquent. Et bien là, c'est une balade numérique. Il va pas se passer grand chose, il y a absolument zéro gameplay, ça va te plaire.
Ah cool, génial, déjà je sais que j'irai pas dessus.
Et en fait on suit un personnage qui se parle, c'est très romancé, c'est très bien écrit, il y a une ambiance assez incroyable. On est sur une île déserte, totalement désertique. Je vous spoil pas trop, mais vous verrez, il se passera.
T'aimes
pas
bien toi les îles de toute façon.
Ouais, j'aime bien. Ouais.
Ça dure combien de temps?
Ça dure 1h30, 2h max. Il y a un passage en fait dans des cavernes qui est absolument incroyable. Mais incroyable, d'une beauté, et on est dedans, et enfin c'est vraiment, si vous aimez aussi un peu Lost, ce genre de choses, c'est, il y a de ça, il y a du mystère, il y a de la poésie, il y a du sens à la fin, même si la toute fin est pas forcément la plus réussie au monde, mais bon, voilà. Et c'est un jeu, une fois de plus, qui vous marque, qui vous laisse une trace. Les musiques sont incroyables, je voulais vous les chercher, mais malheureusement ça ne marche pas là. Ils sont disponibles sur iTunes, Deezer et compagnie.
Et d'ailleurs sur Steam, tu peux acheter le jeu plus les musiques, le pack d'un seul coup.
Tout à fait.
D'ailleurs, ce sera mon deuxième jeu Steam, je crois.
Et franchement,
en plus, ça doit tourner sur des toutes petites configs.
Ah bah, moi, tu vois, j'ai un MacBook Air, pas le nouveau là, celui d'il y a quasiment 2 ans. J'ai essayé en mettant les trucs à fond. Ça marche très bien, ça tournait bien, donc oui pas la peine d'avoir une grosse config. C'est pas non plus le jeu le plus tonitruant technologiquement, hein,
ça, ouais, c'est moteur source
ouais. De Half-Life, mais c'est très beau et il y a quand même bien cette ambiance. Donc voilà, si vous aimez le jeu vidéo un peu qui sort des sentiers battus, c'est le cas de le dire en l'occurrence pour ce jeu un peu différent, qui vous laisse une trace, eh bien donnez-lui sa chance, pas cher et très immersif, très surprenant. Voilà, ainsi s'achève ce podcast 227 qui a dressé le bilan du mois de mai 2012. Messieurs, bon courage pour cette semaine.
Il faut qu'on y aille, nous retourne à LA là, parce que
on a notre avion dans pas très longtemps et la téléportation. Donc on se quitte, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast complètement dingue qui fera le point sur les tendances de l'E3 2012. Portez-vous bien, jouez bien et restez connectés sur Gameblog toute cette semaine. C'est le 3, dispositif exceptionnel. Ça commence tout de suite par la téléportation. Adieu.
Zouiz, zouiz.
Salut.